France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Tania de Montaigne. 19h40, Affaires critiques, Lucille Gaumont nous parlera du nouveau disque du pianiste Benjamin Grosvenor. À 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier, faut-il réhabiliter la figure du commandant Cousteau? Gilles Gasparina, critique d'art et curatrice, nous donnera son point de vue. 19h50, Affaires à suivre en compagnie du plasticien Paul Maéke. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi et Dalia à la prise de son. Bonsoir Tania de Montaigne.
Bonsoir.
On peut, je dirais, on doit aller vivre l'expérience de Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, une installation en réalité augmentée d'après votre livre éponyme par Audition Grasset, installation présentée jusqu'au 29 mai au Centre Pompidou. Nous allons bien sûr en parler, mais on va en profiter comme je le fais chaque soir pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous, de revenir sur des moments importants de votre parcours, de savoir comment vous travaillez. Et pour commencer, Tania de Montaigne, on a l'impression que vous avez déjà vécu quand même plusieurs vies, à la télévision, à la radio, en tant que chanteuse, comédienne, romancière, essayiste, dramaturge. J'attends l'exposition de peinture.
Ouais, ben ça, je vais vous l'épargner, parce que vu comment je dessine, ça serait vraiment pas sympa.
Mais sérieusement, quand vous regardez dans le rétroviseur, ce qui doit pas être tellement votre cas, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça. Vous n'avez pas un peu le vertige de ce que vous avez déjà fait?
Non, alors là où vous avez raison, c'est que je ne suis pas trop une femme de rétroviseur. Et après, en fait, pour moi, c'est toujours des choses qui s'additionnent, en fait. Donc, ce n'est pas des nouveautés. C'est toujours comment est-ce qu'on regarde quelque chose qu'on croyait connaître différemment. C'est toujours aussi un travail différent. Comment est-ce que moi je vais l'investir, c'est plutôt ça qui m'intéresse, et ma capacité aussi à me jeter dans le vide pour voir ce que ça dit.
Mais est-ce que vous savez quand même pourquoi vous faites, on va dire, feu de tout bois, pour prendre une expression ancienne? Est-ce que vous pensez que c'est inné, ou est-ce que c'est le parcours de la vie qui a fait que vous avez de façon très heureuse investi différents moyens d'expression?
Alors, il y a des choses qui sont des constantes, c'est-à-dire j'ai toujours écrit, par exemple. Ça, c'est une chose qui m'accompagne depuis toujours. Après, c'est le moment où on se dit, tiens, je vais essayer d'en faire un travail. Mmh. Voilà, ça, c'est un truc inédit, parce que pour l'écriture, par exemple, vu l'endroit d'où je viens, c'est pas un métier de se lancer là-dedans. C'est un drôle de projet. Donc ça, c'est toujours aussi comment est-ce qu'on s'autorise. C'est une histoire de fabriquer des espaces et de s'autoriser à s'y installer. Voilà, c'est ça le truc, je crois.
Alors, d'où vous venez? Draveil, ouais. Dans l'Essonne. Vous êtes toujours très investi. Éducation très carrée, dites-vous, avec votre mère et votre grand-mère. On reviendra plus tard sur les années d'école qui sont importantes pour la prise de conscience du racisme. Et je voudrais dire que vous avez pu partir à 17 ans, colonie de vacances à Avignon, grâce au comité d'entreprise d'Aéroport de Paris, où travaillait votre maman. On est donc en juillet 88, on écoute cet extrait du JT de France 3.
Le festival d'Avignon, le plus spectaculaire rassemblement culturel de l'été, s'apprête à proposer jusqu'au 4 août quelques 350 représentations de théâtre, de danse, de musique et d'opéra. En ce moment même, ce 42e Festival d'Avignon ouvre par une version intégrale du Hamlet de Shakespeare, mise en scène par Patrice Chéreau pour son Théâtre des Amandiers de Nanterre. Dans la distribution, on relève les noms de Robin Renucci, Marthe Keller et Gérard de Sarthe dans le rôle d'Hamlet. Hamlet que l'on retrouve tout de suite en plein affrontement avec Ophélie.
Puissance du ciel, guérissez-le.
J'ai aussi entendu parler, et bien trop, de vos barbouillages. Dieu vous a donné un visage, et vous vous en faites un autre. Vous vous tortillez, vous trottinez, vous minaudez, vous donnez des surnoms à ce que Dieu a créé. Vous êtes impudique, sous des airs d'innocence.
Je pense qu'au-delà de l'ambition de vouloir réaliser un beau spectacle, c'est même pas le problème sur Hamlet.
Et je crois qu'il faut affronter cette œuvre parce qu'on a un peu le devoir de l'affronter, de la même façon qu'un grand soliste, un grand pianiste doit affronter certains concertos très difficiles. Sinon, il n'avancera pas, s'il se contente des choses les plus simples, les plus évidentes. Donc l'absence d'évidence d'Hamlet est une chose qu'il faut affronter une fois dans sa vie.
C'est Patrice Chéreau qu'on va entendre à la fin de cette archive. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Tania de Montaigne, quand vous assistez à une représentation d'Hamlet cet été-là?
Ouais, bah il se passe tout en fait, parce que moi, l'idée c'est que depuis que j'ai 6 ans, je pars en vacances parce qu'il y a des colos, sinon je partirais pas. Donc ma mère m'inscrit toujours, voilà, puis après elle me dit « ouais, bah là, comme tu fais de la danse, je sais pas, je t'ai inscrite dans un truc et tout ». Et donc nous voilà partis. Ce qui est super, c'est qu'on est tous au même point, c'est-à-dire que bon, Festival d'Avignon, on connaît pas, le théâtre, on n'y va jamais, et on nous dit bon bah, on arrive, vous devez poser vos affaires et on va voir une pièce, et donc on se retrouve dans la cour d'honneur avec une pièce qui dure, je sais pas, 5 heures. Et là, moi, ce que je reçois de ce qui est montré, c'est voilà ce que dit Chéreau là, c'est intéressant de se dire on a le devoir d'y aller. Bah lui il y va, et puis alors voilà ce monsieur que je ne connais pas qui y va avec l'idée que ça sera par son prisme. Donc en fait c'est très singulier. Donc il y a du Prince, il y a des changements de costume, il y a ce Hamlet qui démarre comme bon, comme c'est écrit on va dire, et puis soudain on voit arriver des gens qui sont habillés plutôt années 40. Donc il y a quelque chose pour moi qui se produit, de la possibilité justement qu'il n'y a pas une façon de faire, et que ce type-là que je ne connais pas, il a sa façon de faire. Et puis après, c'était un vrai cadeau, cette colo, parce que les gens qui nous accompagnaient nous avaient dit, on va vous amener voir plein de trucs, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais à chaque fois qu'on sortira d'un spectacle, donc il y avait de la danse contemporaine, enfin, il y avait des trucs vraiment qu'on trouvait bizarres, t'as le droit, mais tu dois dire pourquoi. Et on faisait ça à chaque fin de spectacle, et on devait aussi, si on aimait quelque chose, dire tiens, bah ça on le retient, et nous après on allait faire un spectacle de ça, des trucs qu'on avait aimés chez les autres.
C'est extraordinaire cette façon
de faire. Oui, et en fait là, moi j'ai compris quelque chose, parce qu'on m'a donné cette possibilité-là de dire, c'est vous pouvez élaborer ce que vous voulez, il n'y a pas des gens qui auraient le droit, d'autres pas. En revanche, vous ne pouvez pas regarder ça et le balayer d'un revers de main en disant j'aime pas, il va falloir penser. Et le fait qu'il nous ait obligés à faire ça, ça a duré 15 jours. C'était le plus grand cadeau, et moi j'ai appris beaucoup de choses. Quand je fais un travail avec un atelier, peu importe les publics, c'est toujours ça que j'ai en tête, parce qu'en fait ces gens-là aussi, ce qu'ils nous ont raconté, c'est ce que nous savons, on va vous le transmettre, et après vous allez vous débrouiller avec ça. Donc ils ont supporté de pas être au-dessus de nous, et ça c'est quand même la base de l'enseignement. Et ça donnait aussi, ça ouvrait le jeu, parce que ça veut dire que l'art c'est un moyen de signifier aussi des choses qui peut-être pour nous étaient compliquées, et là il y avait un champ qui était proposé, et dire allez-y, regardez ce qui se passe.
Ça, c'est de la colo. Magnifique. Ouais. Alors, il y aura ensuite, pour vous, Tania de Montaigne, des études de sciences politiques, de la télé, Canal J, Canal+, où semble-t-il, vous ne vous y retrouvez pas. Et vous allez travailler au Centre social de travail, dans lequel vous n'avez jamais cessé d'être bénévole, je crois. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous commencez à écrire ce qui va être votre premier roman, qui sera publié en 2001, Patch?
Ouais, bah en fait ce qu'il y a c'est que, donc moi j'étais bénévole depuis que j'ai 16 ans, hein, je suis au centre social, et puis donc il y a eu ces incursions télé qui étaient en fait concrètement Canal J, c'est le premier boulot qui m'a répondu, hein. À un mois après je faisais de la formation je crois à France Télécom, donc rien à voir, et je me suis retrouvée là-dedans. Alors Canal J c'était une super école, à la différence de Canal+, qui n'était pas une école, mais Canal J oui, puisque n'importe qui ayant une idée, bah vas-y, tu prends un truc et puis t'y vas. Donc on pouvait pas faire la différence entre quelqu'un qui fait de l'antenne et quelqu'un qui en fait pas, parce que potentiellement tout le monde peut faire un truc. Ce qui est l'inverse de ce qui était Canal+, évidemment, où vraiment l'idée c'était de faire vraiment la différence entre les gens qui sont à l'antenne et ceux qui n'y sont pas. Mais voilà, moi de toute façon j'ai toujours continué à être bénévole, et à un moment quand c'était trop pour moi, je comprenais pas, j'ai dit j'arrête. Je repars de la base, et puis comme je prenais le RER tous les jours, et ben alors je vais essayer de faire ce truc-là, d'écrire, puis on va voir ce que ça dit. Donc mon premier carnet, c'était un petit cahier de chez Ikea qui s'ouvrait par le dessus, pas par le côté. Et là aussi, c'était super pour moi de me lancer là-dedans en étant dans le RER, parce que je crois que c'était important qu'il y ait des gens autour de moi et que je sois dans ce truc qui bouge. Voilà. Et toujours cette question du mouvement, en fait, d'un truc qui est donné comme figé. Il y a des gens qui écrivent, d'autres pas, il paraît. Il y a des classes sociales qui peuvent, d'autres pas, il paraît. Et ben là, en fait, il y avait aussi ce truc de dire, bah tiens, si j'allais voir là, si j'y suis. C'était beau. Non, mais ce qui est génial, c'est que j'ai appris, parce que moi, à chaque fois, j'apprends des trucs. C'est là que ça m'intéresse. Et là, ce que j'ai appris, c'est que j'allais forger, c'est un artisanat, et que donc, avec un crayon et un carnet, j'allais essayer de fabriquer des mondes, et j'allais essayer de trouver une voie qui serait la mienne. Donc, c'est à la fois d'être très humble et puis très ambitieuse. Très humble parce que je parle que depuis moi, et très ambitieuse parce que depuis moi, j'essaye de fabriquer un truc, quoi.
Alors, il y a plusieurs romans qui vont suivre de façon assez intense dans ces années 2000. Qu'est-ce qu'elle a permis, cette écriture romanesque, pour vous, Tania de Montaigne, d'ouvrir ?
Déjà, en fait, l'écriture... c'est quand même ce qui permet, au départ, avant même d'élaborer quoi que ce soit, quand quelqu'un fait utilise un instrument artistique quel qu'il soit, c'est parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. S'il pouvait faire face à l'existence sans ça, alors il ferait pas ce qu'il fait. Donc après, c'est comment, de cette nécessité, on va essayer de fabriquer quelque chose. Donc on va remettre du jeu. Et donc du jeu, on va essayer de faire bouger ça et de maintenant fabriquer des mondes. C'est ça le toute la teneur et l'intérêt de cette histoire, c'est ça. Et donc cette idée aussi de faire dialoguer, parce que moi en fait, j'écris parce que je lis aussi, donc il y avait cette idée de tiens, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font pour m'amener à cet endroit-là, pourquoi ça me fait pleurer quand Porthos meurt par exemple. Cette mort, elle est extraordinaire, la mort de Porthos. Bon, de se dire ah ouais, attends, comment, qu'est-ce qu'il est allé chercher, ah oui, il fait ça comme ça. Donc d'un coup, on devient aussi quelqu'un qui démonte un moteur pour se dire ouais, attends, si je fais cette phrase-là comme ça, est-ce que ça ne dit pas ce que moi je voulais chercher ?
Et puis il va y avoir la musique. On va écouter, si vous voulez bien, dans un instant, une de vos chansons.
Oh là là !
Misunderstanding.
Oh là là, d'accord.
Pourquoi avoir. C'est une pulsion, celle de monter sur scène, d'écrire et de composer des chansons ?
Alors c'est trois choses différentes, parce que il se trouve que la musique, c'est comme l'écriture pour moi, c'est depuis toute ma vie. Après, oser se dire c'est toujours pareil, on y va et on va chanter, parce que moi en fait c'était surtout pour que les autres chantent mais moi non. Et là aussi il y a un type qui vraiment change tout pour moi, c'est que je connaissais pas. Donc pareil, je me suis dit, parce que moi en fait je suis une laborieuse, je suis pas du tout quelqu'un de doué. Si je prends un pinceau, je suis pas Van Gogh. Donc, la seule chose que j'ai pour moi, c'est la persévérance et le travail. Donc, là, je me suis dit, je vais prendre plein de chanteurs français, déjà, parce que j'écoutais pas de musique française. Je déplie tout, je regarde ce qu'ils font. Et là, j'écoute un type que je connaissais pas, qui s'appelle Benjamin Biolay. Je dis, tiens, c'est dingue ce qu'il fait, celui-là, parce qu'il fait un concept album, c'est son premier, c'est barré, il y a une narration et tout, c'est très littéraire, en fait. Donc, je me dis, je le connais pas, mais je vais lui envoyer des titres. Et puis mon livre, j'avais écrit Patch, donc voilà. Et j'ai envoyé ça à son éditeur. Donc moi souvent, je dois quand même beaucoup de choses à la poste, parce que mon livre, c'est la poste, là c'est la poste. Donc j'ai envoyé et il m'a répondu. Et donc nous voilà, il me dit qu'est-ce que vous voulez. Je dis moi je sais pas, je vous donne des trucs, vous démerdez quoi. Et il m'a dit non, je crois pas, je crois que ce qu'il va falloir faire, c'est votre truc à vous. Et donc il m'a dit, il y a deux choses importantes. Un, vous êtes romancière, donc ne vous bloquez pas sur les rimes. On s'en fout, il faut commencer par l'histoire. Les rimes, elles vont arriver, vous inquiétez pas. Et puis l'autre chose, il m'a dit, est-ce que vous jouez d'un instrument ? Donc moi, j'étais là, non, moi je compose un peu comme ça. Il dit non, on va se poser. Et en fait, il m'a mise devant un piano, ce qui est... Ça, c'était une grande gentillesse, parce que vraiment, c'est l'instrument bourgeois par excellence. Mais il a fait un truc génial, c'est qu'il l'a coupé en deux. Donc il m'a dit, là, toute la partie droite, pour l'instant, on s'en fout. C'est la partie gauche qui va vous permettre de composer, donc c'est ça que vous allez faire. Et donc tous les trois mois, il me donnait des trucs, des sons, des trucs, il me disait tiens. Et sur le chant aussi, parce que moi, n'importe qui chante pas, imagine que chanter, c'est montrer sa glotte en faisant des espèces de vocalises dingues. Et lui, il me faisait écouter que des gens qui sont vraiment dans le récit et très intérieurs. Donc je sais pas, ça allait de Marilyn Monroe, Martina Topley Bird, enfin voilà. Et donc en faisant ça pour moi, encore une fois, voilà quelqu'un qui m'a rendu autonome et qui m'a montré qu'il faut, pareil, être à son endroit, c'est ça qui compte. Donc, Zou, me voilà en train de pouvoir composer. Voilà, je peux faire des trucs, quoi.
Et Mid Understanding, c'est quoi l'histoire de cette chanson?
En fait, je voulais, là, ça part, parce que parfois, ça peut partir d'un texte, mais souvent, ça partait de choses musicales, en fait. Et là, je me disais, tiens, j'aimerais bien écrire une chanson où il y aurait le ukulélé. Comment je pourrais faire dialoguer cet instrument et la voix? C'était ça, mon point de départ.
On écoute.
Oh, yes, it is a misunderstanding. Oh, yes, it is a misunderstanding, but whatever, that misunderstanding, my darling, I love you. Oh yes, it is a misunderstanding. Oh yes, it is a misunderstanding, but whatever, that misunderstanding, my darling, I miss you. Whatever they breathe, whatever they blow, whatever they mean, my darling, you know. Whatever they think, whatever they sow, whatever, darling, I want you to know. It surely is a misunderstanding, it surely is a misunderstanding, but whatever, that misunderstanding, my darling, it's not him, my darling, it's not him, my darling. It's not him, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you, it's you.
Tania de Montaigne.
Alors, il y a un autre truc que j'ai appris de Benjamin aussi, parce que j'étais allée le voir en studio, et parce que là, c'est des arrangements que j'ai faits. Mmh. Et donc, de le regarder aussi, comment il bosse, comment d'un coup, il met cet instrument-là, celui-là, et tout, comment il est fait dialoguer. Donc, c'est une vraie narration aussi. Et ça, c'était un riche d'enseignements.
Mmh. Vous continuez ou pas, la musique?
Ouais, mais là, il faut que je m'y remette plus. Heureusement, j'ai fait un concert, notamment, on entend dans les chœurs un monsieur que j'adore qui s'appelle Bibi Tanga. Et donc, on a fait un concert au Théâtre du Rond-Point où je l'avais invité lui, j'avais invité Nicolas Repac, professeur inlassable et tout. Et c'était tellement sympa. Donc, je me dis, non, mais faut
y retourner.
Faut y retourner, quoi. Mais c'est pareil, pour faire ça, faut retourner dans ma grotte, refaire les morceaux. C'est tout un processus, quoi. Mais à un moment, de toute façon, c'est là.
Alors, retour au livre.
Ouais.
2015, Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, paraît aux éditions Grasset. On va bien sûr revenir sur ce livre qui est devenu un spectacle pour le théâtre, puis aujourd'hui une installation en réalité augmentée à vivre au Centre Pompidou. Mais avant cela, alors, je reviens sur votre entrée à l'école, Tania Montaigne, ce moment où vous découvrez que vous êtes noire, c'est vous qui le racontez comme ça. Quel effet, quelle question ça pose à la toute jeune fille que vous êtes à ce moment-là?
En fait, l'effet, c'est que je suis rentrée chez moi, parce que j'avais un peu 3 ans, et j'ai dit, tiens, est-ce que je suis vraiment obligée d'aller dans cet endroit? Parce que, voilà, on n'était peut-être pas obligés, mais là, on m'a dit si, on est obligé. Et, c'est ce que produit le racisme. C'est-à-dire, ça crée, ça marche pour n'importe quel, évidemment, ça peut marcher pour le handicap, ça peut marcher pour plein de trucs, hein. C'est qu'en fait, ça resserre, ça vous met dans un étau, et soudain, il y a un présupposé qui ne vous est pas dit, Donc ça vous met vraiment dans une injonction double et muette. Parce que les gens disent, bah oui, il est noir, voilà. Donc il y a tout un truc, il y a un guide, on dirait, mais vous ne l'avez pas. Donc maintenant, vous allez devoir slalomer avec l'idée que les autres se font de vous, qu'ils ne disent pas forcément, et vous allez toujours devoir être hors de vous. Parce qu'en fait, le principe, c'est que quand vous êtes, par définition, vous ne vous définissez pas en permanence. Donc, vous n'êtes pas en train de vous dire tout le temps que vous êtes noir. Et puis, soudain, il y a quelqu'un qui... Tout était normal, puis d'un coup, quelqu'un vous dit un truc avec ce présupposé, et vous n'arrêtez pas de tomber de l'armoire. Mmh. En fait, c'est ça la discrimination. C'est de sans arrêt faire tomber quelqu'un d'une armoire et le ranger dedans. Voilà. Et donc, vous, après, vous mettez toute votre énergie à sortir de l'armoire. Parfois, vous sortez pas. Vous dites, écoute, si c'est comme ça que tu veux que je sois, peut-être je serai comme ça. Et donc, c'est cette lutte, cette bataille intérieure qu'il va falloir régler. Et on croit qu'il faut la régler avec l'extérieur. Donc, toute l'énergie est tournée contre les gens. Voilà, de dire, voilà, comme en général, tout le monde veut aller parler aux nazis. Hein, ça passionne tout le monde de convaincre des nazis. Mais personne fait le truc de base qui est de faire un retour sur soi. Déjà pour solidifier quelque chose de l'intérieur. Pour que ce qui sera dit par l'extérieur raconte l'extérieur, mais pas vous. Mais pour fabriquer cette certitude, bah alors ça, c'est un cheminement. Et sur le chemin, évidemment, il y a des gens qui vont pouvoir vous apporter des clés. Mais par exemple, les gens qui disent « Oh, ils disent ça, ils sont idiots. » Voilà, je me souviens, ma grand-mère elle m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu crois qu'ils font quand ils partent en vacances à part essayer de devenir noir ?» Bon, alors ça ne m'aidait pas du tout. C'était très... j'en étais pas là. Enfin, il y avait... Vraiment, c'est horrible parce que c'est vraiment si on vous prend et on vous retourne. Et votre intérieur devient extérieur et vous n'avez plus d'intérieur. Donc, il va falloir à nouveau se ressaisir de soi-même. Et par exemple, quelqu'un comme Chéreau, c'est très important pour moi parce que, à travers ce que j'ai vu là, dans ce qu'a fait cet homme, dans sa liberté, dans ce texte aussi, c'est ce garçon qui cherche à être lui-même et qui est sans arrêt sommé de répondre à des injonctions extérieures, bah, probablement aussi que ça me racontait quelque chose à moi, cette histoire. Et donc, cette bataille-là, mais c'est vraiment, c'est pour ça que le travail que je fais avec, dans les écoles, il est autour de cette question-là, de se ressaisir de soi-même, et après on peut partir sur le champ de bataille. Mais on part avec la question de la justice maintenant. On part pas avec la question de « il m'aime pas, il a dit que j'étais ça, je le suis pas, mais si c'est beau les noirs, mais non c'est pas beau ». On n'est plus du tout sur ces questions-là, on est sur « écoute, moi je suis là, je suis un point solide, et maintenant je vais dialoguer avec toi à partir d'un truc qui nous concerne tous et que tu ne décides pas, qui s'appelle le droit ». Et donc quand tu dis cette phrase, tu peux la penser, mais dès que tu l'as dit, alors, ça devient un objet de droit. Et je peux donc te demander des comptes. Tu es responsable de ce que tu dis.
Un auteur, un intellectuel majeur du XXe siècle qu'on aime bien écouter dans cette émission. On écoute très régulièrement la voix et la pensée. On va écouter James Baldwin, ici en 85, avec Jacques Chancel.
L'attitude en général de la population qui s'appelle blanche est toujours vis-à-vis des noirs. Aveugle, et il y a quelque chose dans la couleur noire, je sais pas quoi, qui effraie le monde.
Dites-moi très franchement, James Baldwin, ce que vous pensez des Blancs. Mais franchement, hein.
Ce que j'ai pensé des Blancs.
Parce que dans votre livre, Meurtre à Atlanta, vous n'êtes pas toujours très tendre avec la race blanche.
Mais c'est pas une race.
Moi, je prends le parti contraire, vous voyez.
Voilà. Mais c'est pas une race. C'est une attitude, C'est même une histoire. Oui. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, finalement. Parce que tout le monde est raciste, y compris les Noirs.
Oui.
Mais il faut trouver en soi-même le courage pour l'admettre, pour le sache. Autrement, tu te noies dans un racisme plus ou moins inconscient.
Quelle importance a eu James Baldwin pour vous, Daniel Montagne?
Énorme. Ben voilà, parce que là, tout est dit. C'est-à-dire que le travail de James Baldwin, c'est vraiment de sans arrêt être honnête avec qui il est. Et à partir de cette honnêteté, alors il peut réfléchir. C'est-à-dire avec sa propre complexité, quand il raconte que lui, quand il est petit, bah, si on lui met un western, il a pas du tout envie d'être un indien. Ça le saoule, hein. Il veut être un cow-boy. Bon, bah donc... Il se dit, bah ouais, c'est ça, être américain, en fait. Moi, je suis traversé par ça. Je suis raciste comme tout le monde. Blanc, c'est pas une race. C'est un récit. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire de ce récit? Et, enfin, vraiment, avec lui, j'ai appris c'est quoi l'enjeu de l'écriture et c'est quoi l'enjeu d'être au monde, en fait, c'est ça. C'est d'essayer déjà de chercher sa propre vérité et de se regarder tel qu'on est, sans complaisance. Et lui, il fait ça tellement bien. C'est vraiment, cet homme-là, c'est une merveille d'homme parce que, pareil, c'est-à-dire qu'avec ce qui lui est donné au départ, son jeu de cartes, on s'attendrait à ce que, bon, bah, voilà, rien. Hein, donc tu peux tout. Bah voilà, dis-moi ce que, ah bah les blancs, je pourrais dire, ouais, je peux pas les blairer, c'est vraiment des nazes. Non. Avec ce qu'il a traversé, avec son jeu de cartes, à un moment, le type, il dit, je pose tout sur la table et je vais fabriquer d'autres cartes. Vous m'avez donné 4 cartes, moi je vais en fabriquer 50. Voilà. Puis je vais les faire en regardant le monde, toujours. Et ça, c'est vraiment, enfin moi, j'aime ce type, je le trouve extraordinaire, quoi.
Je suis bien d'accord. On revient à ce livre que les éditions Grasset vous ont donc proposé d'écrire. La biographie d'une femme oubliée, et vous vous êtes souvenu de Claudette Colvin, qui avait 15 ans en 1955, qui a refusé de céder sa place à une femme blanche dans un bus, comme les lois de la ségrégation à l'époque l'obligeaient de le faire. Elle a été arrêtée par la police. Alors, on sait que Rosa Parks a fait la même chose, sauf que Rosa Parks, c'est après Claudette Colvin, mais que la suite n'est pas la même pour les deux femmes, et ce qui n'enlève évidemment rien au courage de Rosa Parks. Votre livre, et aujourd'hui l'installation au Centre Pompidou, elle revient sur ce qu'a vécu Claudette Colvin, et pourquoi l'histoire n'est pas la même. C'est ça la question. Pourquoi l'histoire n'est pas la même, Tania de Montaigne?
Pas parce que c'est encore une histoire de mythologie, en fait. Hein. D'ailleurs, concernant Rosa Parks, c'est la même chose. C'est-à-dire, pour nous, elle est incontournable. C'est un RER, une bibliothèque, un parc, une école. Mais pendant très longtemps, c'était surtout rien, parce que donc personne ne s'était souvenu de cette femme. Il a fallu que Martin Luther King meure pour que soudain, on se dise, disons, il n'y avait pas quelqu'un dans ce bus. Et soudain, sont apparues ces deux photos. Je pense qu'il n'y en a que deux, hein, parce que vraiment, tout le monde s'en foutait. Et Claudette Colvin, bah oui, alors là, c'est encore un autre... récit, mais du même ordre, c'est-à-dire c'est même bus que Rosa Parks, même ville. C'est Rosa Parks qui va collecter l'argent pour payer l'avocat de Claudette Colvin. L'avocat de cette jeune fille sera celui qui sera celui de Rosa Parks et de Martin Luther King. Donc tout est quasiment en place, mais pas vraiment. Mmh. Et donc Claudette Colvin, eh ben, elle va être soutenue dans un premier temps, puis elle va être condamnée 3 fois pendant son premier procès, puis recondamnée au second. On va l'oublier. Et ce qui est merveilleux, parce que encore là, c'est comme James Baldwin, c'est quand même quelqu'un, 15 ans, famille très pauvre, qu'on laisse tomber une première fois. On va venir la rechercher au moment où on se dit, bah tiens, maintenant le boycott est commencé, celui qui est lié à ce qu'a fait Rosa Parks. Il faut lancer un procès. On peut pas utiliser Rosa Parks puisque son casier est toujours, il y a un procès en appel. Donc, il faut trouver des femmes qui ont vécu la même situation. Vers qui se tourne-t-on? Bah tiens, il y avait cette adolescente et elle dit oui. Alors là, c'est encore plus fort que la première fois parce que là, elle sait ce qui l'attend et elle y va. Et c'est grâce à elle, du point de vue légal, qu'il n'y a plus de ségrégation dans les transports. Elle et 3 autres femmes qui sont beaucoup plus âgées qu'elle. Hein, c'est évidemment la plus jeune. Et puis ensuite, bah, elle quitte le Sud, elle fait une autre vie. Ses parents lui disent, faut pas parler de ça parce que ça va te poser des problèmes. Et c'est ce qu'elle va faire. Et là, la chose merveilleuse de toute cette aventure, c'est que quand on a su qu'on faisait l'expo à Beaubourg, je me suis dit, il faut essayer de contacter Claudette, parce qu'elle a 83 ans aujourd'hui. Peut-être on peut, voilà, Beaubourg a accepté de payer les billets d'avion, tout ça. Donc là, je me suis démenée comme une folle, avec notre jeune Benjamin qui nous a aidés sur cette, voilà, le geek fou. Et donc, on l'a retrouvé. Et donc là, de faire une masterclass avec Claudette Colvin en Zoom depuis le Texas, qui nous raconte, et c'est ça qu'elle raconte. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y a un moment où on lui a posé la question de dire oui par rapport à votre communauté et aujourd'hui ce qui se passe, voilà. Et en fait, la lutte, qu'est-ce que par rapport, et la question c'était votre communauté qui revenait tout le temps comme ça. Et elle a dit non, mais je pense que oui, il faut lutter, mais alors il faut lutter pour les droits de tout le monde. Et ça, que cette femme de 83 ans, qui a traversé tout ce qu'elle a traversé, il y a ça, aujourd'hui, qu'elle dit, c'est, pour moi, c'est ça qu'il faut garder en tête en permanence, quoi.
Oui, et c'est ce qui, peut-être, on va parler de l'installation rapidement dans un instant, mais il y a un autre livre qui est né du premier, c'est L'Assignation, en 2018, toujours chez Grasset, un essai nourri de la réception du livre noir, Tania de Montaigne, où on vous reprochait tout et son contraire, hein, ce qui est toujours le cas dans quand on touche ce genre de sujet. L'analyse de cette réception, elle se retrouve résumée dans le sous-titre de ce livre, « Les Noirs n'existent pas ». Il faut arrêter de dire, c'est comme quand, vous savez, en Afrique, ouais, comme si l'Afrique c'était une entité.
Ouais, ce pays merveilleux qui s'appelle l'Afrique, un très gros pays. Oui, bah là c'était la question de les Noirs avec un N majuscule, ouais. Parce qu'évidemment chacun a une couleur de peau, mais là, soudain, pareil, cette majuscule, elle vient dire une identité indépassable, et donc bah, les Noirs avec un N majuscule, ils font tous la même chose, c'est bien connu, ouais. Ils pensent tous pareil, ils parlent tous pareil, et donc je me retrouvais avec des gens, soit qui adorent les Noirs, soit qui trouvaient que je parlais pas comme une Noire, soit, bah oui, mais les Blancs, c'est pas facile, hein. Vous, les Noirs, tout ça. Bon. Donc, il y avait ces enjeux-là, bah, qui sont toujours les mêmes. Hein. On a écouté Baldwin, voilà. Et donc, bah, qu'est-ce que moi, je pouvais essayer de tricoter avec ça et avec le lecteur aussi, parce que je pense que je suis une grosse raciste comme tout le monde. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on veut penser ça? Comment est-ce qu'on pourrait le faire ensemble? C'était ça, la question du livre, quoi.
Alors, je reviens à Claudette Colvin et à ce livre noir, adapté d'abord pour le théâtre par Stéphane Foenkinos, qui vous a convaincu de monter sur scène pour incarner votre propre rôle de narratrice. D'ailleurs, vous êtes retrouvée aussi pour une adaptation scénique de L'Assignation. Alors, je vous le disais avant qu'on commence l'émission, si vous avez aimé le livre, si vous avez aimé la pièce, vous adorerez l'installation. Troisième vie pour Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Cette installation réalisée par Stéphane Foenkinos et Pierre-Alain Giraud, qui est présentée au Centre Pompidou jusqu'en 29 mai. Alors, c'est comme pour les séances de cinéma, il faut expliquer qu'il faut réserver sa place à l'avance, parce qu'il y a un créneau horaire, on y est par groupe de 10, on va nous équiper d'un casque, de lunettes, on est au Forum Moisin du Centre Pompidou, ces lunettes nous permettent de voir l'espace dans lequel on va rentrer, mais dans cet espace, alors très simplement, il y a des bancs, il y a une porte, il y a un pupitre, il y a un écran de cinéma, mais dans cet espace vont arriver à la fois des décors et des personnages tout à fait incarnés, dont Claudette Colvin, mais aussi la dame dans le bus, le chauffeur du bus, les policiers, le juge, etc. Il y aura même Martin Luther King et Rosa Parks. On peut se déplacer librement, et selon où se pose notre regard, on voit des scènes qui sont comme celles d'un film, et puis on vous voit de temps en temps sur l'écran de cinéma assumer à nouveau ce rôle de narratrice. Description très sommaire, mais c'est pour un travail que je trouve vraiment de très très grande qualité, à la fois dans sa réalisation, dans l'interprétation, des effets visuels très sobres et très beaux. J'avais la tête au sommet des arbres à la fin de la séance.
Vous avez levé la tête.
Oui, bien sûr. J'ai un torticolis grâce à vous.
Est-ce que vous avez regardé par terre?
Mais partout. Mais,
parce qu'il y a des champignons de folie.
Mais oui.
Je spoil, mais je tiens à vous dire que je suis restée en bug. Je ne savais pas qu'il y avait des champignons.
Il y a énormément de choses. Mais, alors d'ailleurs, j'espère vraiment que des milliers de gens vont découvrir cette installation, et des milliers, qu'elle pourra être montrée partout ailleurs dans le monde. Mais quels sont les retours que vous en avez? Ça fait à peine 8 jours que c'est ouvert.
Bah, non, mais ce qui est génial déjà, c'est que c'est complet tout le temps. Et puis, c'est des gens très différents, toutes couleurs, tous pays, tous âges, qui viennent vivre ça. Ça, c'est génial, quoi. Donc moi, quand j'y suis de temps en temps, je me retrouve dans des discussions. Donc hier, j'ai vu une dame, alors faut que je la cite, parce que c'est la seule. Est-ce que vous êtes allé derrière l'écran?
Oui.
Voilà.
Il y a la rangée de fauteuils.
Ben voilà. Mais vous êtes très peu, en fait.
Ah bon?
Donc, à tel point qu'on se disait, bon, peut-être il faut qu'on enlève cette rangée, là, parce que ça nous fait plaisir, mais il se passe rien. Et en fait, non, on découvre au fur et à mesure qu'il y a des... Et elle a carrément fait un bout de l'expérience. Mmh. Elle était derrière. Mmh. Donc, elle me racontait tout son truc et tout ce qu'elle avait imaginé. Donc, c'était génial, quoi. C'est vraiment extraordinaire.
Non, c'est extraordinaire. C'est difficile de dire plus, mais vraiment, il faut aller le vivre. Donc, vraiment, réservez vos places. Ça va voyager ou pas? Vous le savez déjà?
Ouais.
Ah bon.
Là, on a des propositions pour que ça bouge.
Bah, il faut.
Voilà. Et quand vous viendrez faire l'expo, il faut vraiment, c'est vous qui allez faire votre propre narration. Donc, il faut vraiment que vous vous déplaciez.
Ah, oui.
Que vous bougiez, que vous choisissiez si vous avez envie d'être dehors, à l'intérieur de ce qui se passe. Petit truc aussi, aller à côté de Claudette quand elle est chez elle. Parce que moi, j'ai fait l'expérience là, en étant avec elle. Alors là, c'est complètement autre chose.
Complètement autre chose. Pour finir, on va se quitter avec votre choix musical, Ray Charles, Georgia on My Mind. Je rappelle, donc, on peut vivre l'expérience de Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, jusqu'au 29 mai au Centre Pompidou. On peut aussi se procurer, bien sûr, le livre aux éditions Grasset.
Et je précise qu'il y a une BD géniale, je peux le dire parce que j'ai rien foutu, qui est faite par Émilie Plateau. Donc c'est une adaptation du livre et c'est magnifique.
Bon, je ne la connaissais pas, mais grâce à vous, vous faites bien de signaler. On ne va pas avoir le temps de raconter l'histoire, mais il y a toujours une histoire derrière des choses qu'on croit connaître. Et derrière Georgia on my mind, il y a une très grande histoire, ouais, et une très belle histoire. Ouais. Donc on invite tous nos éditrices et auditeurs à aller se renseigner. Et on va se quitter avec Ray Charles. Merci Daniel Montaigne d'être venu ce soir.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa, Georgia, Georgia, I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comon.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, un disque, le dernier en date du pianiste Benjamin Grosvenor, consacré à l'œuvre de Robert Schumann, Clara Schumann et Johannes Brahms.
Thank you.
Ce qu'on entend là, c'est la première des Kreutzer Rihanna de Robert Schumann, un cycle de morceaux composé en 1838 par le jeune pianiste et compositeur d'après l'œuvre de Hoffmann, qui avait écrit en 1815 une série de courts récits avec pour héros un de ses alters ego, Johannes Kreutzer, musicien fantasque et mélancolique. On est là au cœur démultiplié du romantisme le plus éclatant et le plus sombre, une œuvre virtuose, changeante, pleine d'humeur, de troubles, d'accalmies passagères et de tempêtes soudaines, sous les doigts donc de Benjamin Grosvenor. Le pianiste britannique a 32 ans, mais déjà des dizaines de disques derrière lui. C'était le plus jeune musicien il y a 15 ans à signer chez le prestigieux label Decca. Il entreprend la partition de Schumann avec une grande maturité, à la fois du détachement et une grande empathie, et pour cause, il a choisi d'aller au plus intime, au plus brûlant, avec un programme qui fouille dans une triple intimité, celle complexe qu'il y a Robert Schumann, son épouse Clara et Johannes Brahms, devenus leur apprenti et protégé. Alors le disque commence avec les Kreutzer Rihanna, une sorte de voyage musical dans la psyché schumannienne, un soi sans cesse contrarié, circulant entre un pôle exalté et un autre mélancolique. Schumann l'offrit à sa jeune fiancée Clara quelques jours seulement après sa demande en mariage, en le qualifiant ainsi « musique bizarre, musique folle, voire solennelle », une sacrée déclaration tout en contraste, foisonnante, tellement pleine d'émotions et de sentiments forts et contraires, qu'apparemment la jeune femme fut quelque peu effrayée. Et en effet, c'est un périple de traverser ces 8 morceaux, dont les indications de tempo d'ailleurs disent la nature superlative, très intime, très agitée, très long, très vif. Je cite. L'intelligence de Grosvenor, c'est cette qualité de clarté avec laquelle il les joue, mais c'est aussi de leur adjoindre les œuvres plus stables de Clara Schumann puis de Brahms comme une compensation, une délicate remise à l'équilibre des affects romantiques.
Schumann et Brahms au programme de ce nouveau disque de Benjamin Grosvenor. Il a paru chez Decca. Merci Lucille Comeau. Mais c'est Marie Sorbier.
C'est tout à fait moi.
Ça doit être affaire en cours, j'imagine. Et ce soir, retour sur une figure controversée, celle du commandant Cousteau.
Oui, vous vous souvenez sans doute, il a longtemps été considéré comme la personnalité préférée des Français. Le commandant Cousteau reste pourtant méconnu chez les moins de 30 ans. Alors comment et pourquoi cet homme, à la fois cinéaste, marin, aventurier, un des premiers visages de l'écologie populaire en France, a-t-il pu disparaître du panthéon de la pop culture? Je suis allée demander à Gilles Gasparina des nouvelles de la popularité du commandant Cousteau. Gilles Gasparina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes critique d'art, curatrice, chercheuse. Qu'est-ce qui vous paraît contemporain dans la figure du commandant Cousteau et pourquoi les jeunes générations peinent à retenir son nom?
Alors les jeunes générations peinent à retenir son nom parce qu'ils ne l'ont pas vu à la télévision et que pour le moment il n'est pas encore fait sa réapparition de la culture pop. À mon avis c'est imminent, mais j'ai pas d'infos précises sur cette question. Et je l'ai trouvé passionnant, je me suis plongée dans cette figure parce que en fait, c'est un personnage très complexe. Moi, je viens plutôt de l'art contemporain, donc a priori rien à voir avec les films sous-marins du commandant Cousteau, mais c'est une figure qui condense en fait beaucoup de questions qui sont extrêmement contemporaines, évidemment la question de l'écologie, mais aussi les questions des controverses morales qu'on retrouve beaucoup autour de sa figure d'ailleurs très tôt, pas simplement dans les 10 dernières années. C'est aussi un homme de télévision, donc d'un média un petit peu disparu, un cinéaste, et donc il y a des questions qui vont de la culture visuelle à l'écologie, en passant par des questions presque morales en fait.
Alors vous parliez des controverses, mais vous avez particulièrement travaillé sur le Cousteau cinéaste, et si ces films ont vieilli, c'est plutôt le signe d'une évolution positive des considérations environnementales, ce qu'il considérait lui de son vivant comme une bonne chose.
Oui, c'est vrai que il a été beaucoup attaqué sur notamment Le Monde du Silence, donc qui est son premier long métrage en 56, qui en effet est extrêmement violent, comporte des scènes vraiment atroces. Simplement, c'est une critique qu'il se faisait déjà lui-même dès les années 70. En fait, au tout début des années 70, il était déjà conscient que il y avait beaucoup de violence inutile et que même lui avait déjà progressé par rapport à, disons, le rapport à la nature qu'il montrait dans le film.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il faut réhistoriciser la place de ce film dans une évolution des mœurs, en fait, ou des mentalités concernant l'environnement.
Oui, alors c'est vrai qu'on est dans une période où il y a beaucoup de demandes de censure, par exemple, où il y a beaucoup de travail qui est fait sur la relecture des œuvres, et j'ai trouvé très intéressant de découvrir que lui-même avait refusé de remonter son travail. Il aurait pu, en fait, l'expurger des passages problématiques, et il a préféré les conserver pour témoigner d'une époque qui, justement, avait changé. J'ai trouvé que cette position, justement, résonnait d'une manière particulièrement intéressante aujourd'hui.
Alors l'écologie fait désormais partie des gros titres quotidiens. Une personnalité comme Cousteau devrait inspirer ou en tout cas prêter à discussion. Faut-il réhabiliter la figure du commandant Cousteau ?
C'est une question fort compliquée. Disons que pour les grands noms de l'écologie, c'est pas une figure honteuse, bien au contraire, hein, plein de gens continuent de s'en revendiquer. Après, c'est vrai qu'il incarne un rapport à l'écologie très daté, justement, très vertical, très autoritaire, très paternaliste. Et donc, peut-être... On peut le réhabiliter en distinguant certaines périodes de son travail, et peut-être en ne prenant pas le tout dernier Cousteau, qui était quand même parfois à la limite de l'acceptable, je trouve.
Sur quel point, par exemple ?
Disons qu'il s'est transformé en moraliste sur la fin de sa vie, en prenant position sur des questions qui finalement ne le concernaient pas directement. Je parle dans le livre, par exemple, d'un épisode qui, moi, m'a beaucoup amusé. Il s'est vraiment énervé contre les crados. Donc, je sais pas si les auditeurs et auditrices se souviennent de ce que c'est, mais c'était des séries de petites cartes qu'on distribuait à l'école. Moi, j'en avais quand j'avais, voilà, une dizaine d'années, dans les années 90. Et les crados ont beaucoup amusé les enfants. Et voilà, Cousteau, par exemple, a lancé une campagne contre les crados parce qu'il pensait que ça dénaturait, la moralité des enfants. Il écrit même une diatribe dans laquelle il explique à la fin que les enfants qui jouent avec des crados finiront dans la cocaïne. Enfin, c'est très étrange, hein. C'est très inattendu. Donc voilà, ces prises de position complètement délirantes sur des sujets extérieurs à ses spécialités, en fait, desservent un petit peu sa figure dans les années 90, en fait.
Alors, on parlait du Cousteau cinéaste, mais c'est quelqu'un qui a très vite compris que finalement, c'est pas par l'esthétique du cinéma qu'il allait toucher un large public, mais bien par la télévision. C'est un des premiers, ou en tout cas un de ceux qui a utilisé la télévision pour ce qu'elle est, pour son pouvoir, c'est-à-dire diffuser massivement un message.
Ouais, il a vraiment embrassé ce médium en abandonnant assez tôt le cinéma pour embrasser le médium de la télévision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a appris à faire de la télévision aux États-Unis, donc dans un pays qui avait déjà raffiné et sophistiqué au maximum les formes de narration télévisuelle, le découpage des séquences, etc. Donc il a vraiment beaucoup appris là-bas et il a appliqué ses recettes ensuite inlassablement à la télévision même française.
Oui, ce qui est troublant aussi, c'est la masse de films réalisés.
Ah, c'est impressionnant, il y en a plusieurs centaines en fait. Donc beaucoup de téléfilms en fait, mais qui sont quand même réalisés à l'époque avec des conditions techniques qui sont celles du cinéma. Donc on a une qualité technique qui est assez impressionnante dans les images et une esthétique qui est plutôt celle de la télévision. Donc c'est un étrange mélange, une hybridation intéressante.
Et au-delà des films, c'est aussi quelqu'un qui a apparu très souvent à la télévision. Il était invité dans les émissions grand public, dans les journaux. Donc il faisait partie en fait de la vie des gens, de la vie quotidienne des Français à cette époque-là.
Oui, d'ailleurs j'ai commencé les recherches en me plongeant dans les archives de l'INA, les archives télévisuelles. J'ai beaucoup regardé des émissions que j'avais vu enfant, donc j'ai un peu plus de 40 ans, donc je l'ai beaucoup vu à la télévision, et c'est vrai que je fais pas partie des gens qui ont été marqués par ses émissions, même si je les ai vus, mais j'ai plutôt été marquée par son omniprésence dans les émissions de divertissement. Et de commencer finalement ce parcours biographique en plongeant plutôt dans ses émissions un peu oubliées, avec encore une fois des stars qu'on a un peu, peut-être oubliées aussi, c'était assez intéressant, et je trouvais qu'il y avait une résonance entre la dimension très mélancolique de son cinéma, enfin en tout cas la manière dont elle devient mélancolique au fur et à mesure du temps, et ce rapport au médium qu'on est en fait assez nombreux et nombreuses aujourd'hui à regarder avec cette mélancolie parce que ça nous rappelle des souvenirs, mais aussi que le médium a énormément changé.
Est-ce qu'il était conscient d'avoir réussi à créer un archétype de son personnage avec ce fameux bonnet rouge ? Est-ce que tout ça était prémédité de sa part ? Est-ce qu'il est devenu, malgré lui, finalement, une figure marketing ?
Alors, malgré lui, je crois pas. Justement, c'est vraiment aux États-Unis qu'il a appris à se créer un personnage. J'en parle un peu dans le livre, mais il y a tout ce jeu, par exemple, autour des tenues des plongeurs dans les premiers épisodes de l'Odyssée, qui ont vraiment été pensées pour leur télégénie. Donc, vraiment pour attraper le regard du spectateur et des spectatrices, pour leur plaire visuellement. Donc, je pense qu'il était même tout à fait conscient de cette dimension-là. Il a beaucoup joué de son nom, il a créé des fondations à son nom, et il a vraiment marketé son nom. Mais pas tant pour faire de l'argent, en fait, que pour défendre ses idées.
Votre ouvrage, Cousteau, vient de paraître aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup, Gilles Gasparina.
Et merci à vous, Marie Sorbier. Chaque vendredi, cette saison, nous prenons des nouvelles d'artistes ou de chercheurs et chercheuses en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis, programme piloté par Gaëtan Bruel et Mabutin qui propose des résidences sur mesure. Nous en parlons ce soir avec le plasticien Paul Maheke qui est en ligne avec nous. Bonsoir, ou bonjour plutôt pour vous.
Bonjour.
Vous avez étudié à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, à l'École Estienne, également à Paris, à l'Open School East de Londres. Vos œuvres et performances ont déjà été présentées aussi bien à la Tate Modern de Londres, à la Biennale de Venise, à Chicago, au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo. La liste est très très longue pour dire que votre travail est déjà très largement montré. Travail, alors installation, vidéo, performance, il peut prendre différentes formes, il s'intéresse singulièrement au corps, et on va voir que c'est encore le cas avec ce projet de résidence, ce projet de recherche, le corps comme porteur de notre histoire, de notre mémoire, de notre identité. Alors, Paul Maheke, quel est le projet qui vous a amené à postuler pour cette résidence ?
Alors, le projet qui m'a amené à postuler à la Villa Albertine, c'est un projet qui s'intéresse à la culture du roller rink ou du roller disco, comme on pourrait l'appeler en France, qui est une culture très développée à Chicago, qui vit des heures un peu plus sombres aujourd'hui à cause des récessions économiques, mais qui est plutôt basée dans le sud de la ville et donc dans des communautés noires. Et voilà, il y a un style de danse qui m'intéressait particulièrement à Chicago qui s'appelle le JB Skating, qui est inspiré par la musique et les mouvements de James Brown.
Ce JB. Mais il y a aussi le fait, ça fait partie aussi du projet que j'ai lu, parce qu'un de vos premiers désirs, et plus que cela d'enfance, Paul Maheke, ça a été de devenir patineur artistique professionnel. Et de ce fait, la figure de Surya Bonaly a été une figure majeure, alors bien sûr du sport, mais aussi du racisme systémique dont elle a souffert.
Mmh, tout à fait, oui. En fait, j'ai commencé le patinage artistique à l'âge de 4 ans. Et c'est mon père qui a proposé ça à ma sœur et moi comme une activité qu'on pourrait faire parce qu'il était fan de Surya Bonaly. Donc, et c'est vrai que Surya était devenue une figure très importante pour nous parce que c'était aussi un moyen pour mon père de nous éduquer à quoi le racisme pouvait ressembler à un niveau systémique. Et donc, forcément, quand j'ai découvert la culture du JB skating, qui est fondamentalement noire, dans un espace aussi assombri, parce que c'est dans des espaces sans fenêtres, avec des lumières de boîtes de nuit, et que je repensais à Surya Bonaly dans un espace complètement différent, celui de la patinoire, donc physiquement très blanche, mais aussi dans la discipline, les athlètes à l'époque étaient principalement blancs ou blanches. Et donc j'y voyais des parallèles assez beaux aussi là-dedans, et notamment du fait qu'elle ait immigré aux États-Unis il y a presque 30 ans maintenant.
Alors concernant l'autre versant de votre projet, c'est le roller disco, à quand remonte son apparition et dans quel contexte en fait ?
Alors très tôt, le roller devient quelque chose d'assez important dans la culture américaine à partir des années 20. Et ça commence bizarrement, enfin bizarrement ou non, avec l'armée américaine qui développe du coup des patins qui permettraient à des soldats d'accéder à des zones reculées sans avoir besoin de véhicules motorisés. Et puis ça devient autre chose parce que la technique n'est pas vraiment appropriée en fait au terrain. Et c'est promu par notamment le gouvernement de Reagan qui en fait une sorte de d'art de vivre pour rester en bonne santé, pour aussi promouvoir une nouvelle forme d'amusement.
Et où en êtes-vous actuellement de ce projet de recherche ?
Donc là, en ce moment, je suis en train d'écrire des petits textes qui sont mi-fictionnels, mi-des extraits de journaux que je suis en train d'écrire durant ma résidence et qui, en fait, établissent des liens entre le roller skating et la figure du vampire. Donc ça devient encore plus nébuleux.
Alors, dernière question, est-ce que vous allez rencontrer Surya Bonaly ? Est-ce que vous allez aller à Las Vegas ?
Alors, je devais me rendre à Las Vegas et finalement, on s'est rencontrés virtuellement.
Ça a eu lieu ? Ah oui.
Oui, ça a eu lieu. On s'est rencontrés virtuellement il y a 2 semaines. Parce qu'il y avait des problèmes logistiques qui fait qu'on ne pouvait pas me rendre sur place. Mais on a échangé assez longuement sur sa relation au patinage, sa vie aussi actuelle, son rôle d'entraîneuse maintenant et de transmission aussi de son savoir et de son expérience à la jeune génération.
On a hâte de voir le résultat, qu'il soit écrit, filmé ou une autre forme. Et c'est ça aussi, effectivement, les résidences qui changent les projets qu'on pouvait avoir en arrivant sur place. Merci, Paul Maheke, pour ces quelques minutes avec nous. Et nous, vendredi prochain, on prendra des nouvelles d'une ou un autre résident de la Villa Albertine. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Apolline Limosino, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.